Seule solution.
Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue ici à Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Nous sommes bien contents d'être ici, tout à côté du court Philippe Châtrier, où il s'est passé des choses. On verra ça avec toute l'équipe des sports. C'est parti donc pour 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Les 18h sur Europe 1. Et au sommaire, avant le tennis, le foot avec le dernier jour de championnat ce soir et comme un épilogue à tiroir, le mercato, les départs, les arrivées, les histoires, les combines, toute l'histoire dans l'histoire. Nous commenterons ces dernières nouvelles avec Cyril de la Morinerie. Le tennis ici à Roland-Garros avec les qualifications hier de Djoko et d'Alcaraz. Le gros match aujourd'hui, c'était notamment Iga Świątek et ça a été, pour ainsi dire, expéditif. Nous ferons le point. L'actualité, c'est aussi la politique avec les députés Elliott qui n'entendent pas lâcher le morceau. La proposition d'abrogation est examinée jeudi prochain dans l'hémicycle. Bertrand Pancher, député Elliott de la Meuse, est notre invité tout à l'heure à 18h15. Dans ce journal également, l'agence du médicament qui prend la décision d'attaquer le professeur Didier Raoult, le grand chantre de l'hydroxychloroquine. Explication à suivre. La grande contre-offensive contre la Russie est imminente. Volodymyr Zelensky l'annonce encore dans le Wall Street Journal aujourd'hui. Oui, mais cette contre-offensive, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Où est-elle? Est-ce finalement qu'un coup de bluff? Le député ukrainien Oleksiy Gonrachenko sera l'invité de ce journal. Et puis même si vous n'avez pas les chiffres exacts en tête, vous en doutiez sûrement, nous sommes 8 Français sur 10 à ne pratiquement plus utiliser le stylo. Tout passe par les mails et les messages, illustrations à la fin de ce journal. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, instabilité sur le relief, toujours sur le sud-est aussi, ainsi qu'en vallée du Rhône, et chaleur sur les pays de la Loire et le centre.
18h30, ça fait débat entre Thomas Carpellini et William Tay du Millénaire. 19h15, panorama. Le climat anxiogène à chaque coin de rue. Où qu'on regarde, quoi qu'on lise, n'importe quelle chaîne de télé, des meurtres, des suicides, des maladies. Les émissions de programmes ont laissé leur place à des fictions américaines sanguinaires. Netflix cartonne avec le sang et les revolvers. François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, sémiologue, directeur de la revue Télévision, sera avec nous en compagnie également de Serge Tisseron, psychiatre. Docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, spécialiste des écrans. Ils débattent pour nous tout à l'heure. Et puis, fin de ce 18-20 à 19h40, comme toujours dans cette quinzaine de Roland-Garros, service gagnant avec Axel May et Cédric Pioline.
Europe 1.
Et d'abord donc le football, puisque c'est la dernière journée de Ligue 1 ce soir, pour cette saison en tout cas. Multiplex exceptionnel à suivre dès 20h sur Europe 1 avec Lionel Rousseau, tous les correspondants en région, 10 matchs au programme. Avec d'abord le PSG qui reçoit Clermont, les Parisiens assurés de remporter le titre de champion de France. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir Pierre Devineau.
C'est vous qui allez nous faire vivre ce match au Parc des Princes. Les Parisiens n'ont pas vraiment la tête à faire la fête.
Exactement, la fête donc pour ce 11e titre de champion de France, c'est un record, hein, Paris va dépasser Saint-Etienne, sera plus sobre en raison d'abord bien sûr de l'accident dramatique dont était victime Sergio Rico, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, a fait une grave chute de cheval le week-end dernier. Et donc à la 16e minute de la rencontre ce soir, le public sera invité à manifester bruyamment son soutien au gardien espagnol actuellement à l'hôpital à Séville. Ce sera aussi l'heure des adieux pour l'entraîneur Christophe Galtier qui a annoncé son départ un an seulement après avoir pris les rênes de l'équipe parisienne. Départ également de Sergio Ramos après de bons et loyaux services. Quant à Lionel Messi, tout indique qu'il ne jouera plus au PSG la saison prochaine. Le septuple Ballon d'Or s'est exprimé sur le média ESPN pour annoncer son départ, sauf que la vidéo a été retirée des réseaux sociaux. On verra. Le seul enjeu, en tout cas ce soir, pour le Paris Saint-Germain, c'est le titre de meilleur buteur. Mbappé a un but d'avance sur le Lyonnais Alexandre Lacazette et le Parisien espère finir pour la 5e fois d'affilée meilleur buteur de Ligue 1 comme Jean-Pierre Papin.
Mais le vrai enjeu, Cyril, c'est la lutte pour le maintien. Nantes et Auxerre jouent très très gros ce soir.
Auxerre reçoit Lens et Nantes accueille le dernier Angers. L'ancienne équipe de Giroud est en ballottage favorable, 16e avec 2 points de plus que Nantes, 17e. Et donc virtuellement, cette équipe de Nantes virtuellement reléguée. Mais les Auxerrois reçoivent un Cador, le dauphin du Paris Saint-Germain. Et Lens annonce d'ailleurs vouloir respecter le football et donc conclure sa saison en beauté. Alors que Nantes, finaliste de la Coupe de France, accueille le dernier Angers. On suivra également la lutte pour la 4e et 5e place qualificative pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence avec Lille, le 4e qui va à 3, Rennes, le 5e qui se rend à Brest, Monaco, le 6e qui reçoit Toulouse, enfin Lyon, 7e va à Nice.
Merci Cyril, Cyril de la Morinerie. Voilà, je vous avais parlé d'un épilogue de cette saison à tiroir. Vous avez le compte-rendu complet, rendez-vous à 20h avec Europe 1 Sport pour le multiplex Ligue 1 et le coup d'envoi de ces 10 matchs tout à l'heure à 21h. Le tennis ici à Roland-Garros, Axel May, vous êtes sur le court. Suzanne Lenglen ou l'Américain Taylor Fritz tente de se qualifier pour les 8e de finale.
Oui, Taylor Fritz, un joueur du top 10, bandeau rouge, tenue rose bordeaux, vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells l'an dernier. Il est opposé à l'Argentin Cerundolo, qui est un joueur à la 23e place mondiale. Ça avait bien débuté hein, pour Taylor Fritz sur ce cours Suzanne Lenglen, puisqu'il a remporté la première manche 6-3. Malheureusement pour lui, et tant mieux pour Cerundolo, il a perdu la deuxième manche 6-3. Deux jeux partout dans la troisième manche, et surtout, le public qui a bonne mémoire se souvient que Fritz avait éliminé au tour précédent le dernier représentant tricolore encore là au deuxième tour, Arthur Hinderknecht, et qu'il avait un petit peu charrié le public, qu'il avait sifflé, et le public l'a de nouveau sifflé, écouté à son arrivée lorsqu'il s'est présenté sur le court.
Sur cette édition, il écarte au premier tour son compatriote Michael Moore en trois manches, au second tour le français Arthur Hinderknecht en quatre manches, il est tête de série numéro 9, américain Taylor Fritz.
Voilà, vous entendez, c'était d'abord les applaudissements, puis des sifflets. Mais depuis que le match a commencé, je vous rassure ou pas, Pierre, sachez que le public est très fair-play.
Quels sont les autres résultats à retenir pour cette journée, Axel?
Bah, d'abord, le forfait de la Kazakh Rybakina, quatrième mondiale, l'une des favorites pour le titre chez les femmes. Elle se sentait mal. Et donc, l'Espagnol Sara Sorribes Tormo s'est qualifiée sans jouer. Qualification aussi du Danois Holger Rune, de la Polonaise, numéro 1 mondial, Iga Świątek, de Casper Ruud, le Norvégien, ou encore de Coco Gauff, qui a battu l'Américaine, la jeune prodige russe, Mira Andreeva, 16 ans seulement. Ajoutons pour être complet que Yoshihito Nishioka, le Japonais, a battu Thiago Seboch-Wiltz, le Brésilien qui avait créé la surprise en sortant Medvedev, le Russe, dès le premier tour. Eh bien, Nishioka s'est qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale.
Ouais, merci Axel. Iga Świątek, 6-0, 6-0, 45 minutes.
Ouais, c'était rapide hein, pour c'était le cours, les spectateurs du cours central.
C'était à la polonaise. Merci Axel May. On vous retrouve à 19h, bien sûr, dans le journal, et 19h45 avec Cédric Pioline. Il est 18h07. Dans un instant, la suite du journal avec l'ANSM, l'agence du médicament, qui a finalement décidé de saisir la justice concernant Didier Raoult. Et puis cette contre-offensive de Volodymyr Zelensky, depuis le temps qu'on en parle, quand est-ce qu'elle arrive? Réponse du député ukrainien Oleksiy Goranchenko, qui sera avec nous dans quelques instants. A tout de suite.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Retour ici à Roland-Garros, à deux pas du cours Philippe Châtrier, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, 18h09. Et ce nouvel épisode judiciaire pour Didier Raoult, l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'apprêtait à saisir la justice concernant une étude datant du mois d'avril, pilotée par le professeur marseillais, pour traiter les malades du Covid. C'est simple, cette étude a été qualifiée du plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Ce sont des médecins qui disent ça dans la presse au travers d'une tribune. Lucie de Pertuis, Didier Raoult est donc une nouvelle fois dans le viseur des autorités.
Oui, le gendarme du médicament va saisir la justice concernant cette étude. Information confirmée par Europe 1. Une étude déjà épinglée mercredi par le ministre de la Santé François Braun devant le Sénat.
Je déplore ce nouvel épisode inadmissible de cette affaire qui pour moi s'apparente à de la provocation. Nous serons amenés à prendre toutes les mesures nécessaires envers l'ensemble des signataires de cet article.
Ces essais ont porté sur plus de 30 000 patients Covid qui ont été soumis à des traitements, notamment au protocole Raoult, combinant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Une étude dite préprint, c'est-à-dire non relue par des pairs. Et justement, selon le gendarme du médicament, elle aurait dû bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes ainsi que d'une autorisation de l'ANSM pour être mise en œuvre. Face aux critiques, ces auteurs l'ont finalement retirée de la plateforme sur laquelle elle avait été publiée. Et sur Twitter, Didier Raoult se défend, affirmant que les soignés n'ont pas été des cobayes, mais des chanceux. « Je n'ai pas peur, la vérité circule et circulera, comptez sur moi », conclut le professeur marseillais, qui devra faire face une nouvelle fois à la justice concernant ces méthodes décriées par une partie de la communauté scientifique.
Merci de ces précisions. Lucie de Pertuis, en Inde, une catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 288 morts et 850 blessés. Deux trains de voyageurs, plus un convoi de marchandises se sont impliqués dans cette collision qui a eu lieu lieu dans l'est du pays, près de Balasore. Précision tout à l'heure dans le journal de 19h. Volodymyr Zelensky accorde une grande interview au Wall Street Journal ce samedi. Le président ukrainien prépare toujours cette contre-offensive dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines. Il redoute principalement la défense aérienne russe, demande par là qu'on lui livre plus de missiles Patriot, ces puissants missiles sol-air américains. Bonsoir Alexei Gonchar.
Je m'appelle Alexei Gonchar.
Excusez-moi pour la prononciation, vous êtes député ukrainien. Cette contre-offensive, on en parle depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'elle va finir par intervenir?
Moi, je ne suis pas militaire. Je ne peux pas vous dire quand et où le contre-offensive va commencer, mais je suis absolument sûr que notre contre-offensive va commencer dans les prochaines semaines.
Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous réclamez, comme le président Zelensky, notamment ces missiles Patriot, parce que l'armée russe est très très forte dans les airs?
Oui, c'est vrai, c'est le grand objectif pour nous. Et nous avons vu beaucoup de frappes missiles à les grandes villes de l'Ukraine, à Kiev et d'autres villes, pendant les dernières semaines. Et c'est pourquoi les défenses antiaériennes, c'est quelque chose de très important pour nous, pour sauver les vies de les gens civils et pour préparer la contre-offensive aussi.
Cette contre-offensive, c'est tout le peuple ukrainien qui participe au travers des soldats, mais aussi de toute la nation d'une certaine manière?
Oui, bien sûr. Toutes les nations aident notre soldat pour préparer, pour, par exemple moi, je suis fondateur de la chaîne de le centre éducatif et culturel, mais maintenant, ça s'appelle Gonchar Centre, mais maintenant, nous devons faire tout pour aider notre arme, pour acheter les voitures, pour acheter les anti-drones et les drones commerciaux pour aider. C'est comme ça que toutes les nations font.
Est-ce que vous diriez que l'Ukraine a été entendue par la communauté internationale?
Je voudrais dire merci à la communauté internationale et le monde libre pour tous les soutiens et la République de la France. Mais je voudrais dire qu'il n'y a plus de soutien. Nous avons besoin de plus de soutien.
Merci beaucoup, monsieur le député Alexei Gonchar, d'avoir été avec nous. Ce sujet, un brin romantique pour terminer ce journal, quand la nostalgie de la carte postale vous tient. Il est vrai que de nos jours, le clavier est l'instrument d'écriture numéro un. Le stylo n'intervient que pour l'appoint, même si j'en ai un dans la main. Même les listes de courses, on les fait sur les smartphones. Alors, l'IFOP a interrogé les Français et le constat est accablant. Reportage de Delphine Schiltz.
Moins d'un Français sur deux a couché des mots sur le papier ces 12 derniers mois. Seul un jeune sur 10 utilise plus son stylo que son clavier.
Les cours, tout est tapé à l'ordinateur. C'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus rapide.
Reste quelques reliques comme les cartes postales, même si moins d'un Français sur deux en a posté une l'année dernière.
Ah, les cartes postales, oui, j'aime bien l'envoyer, oui.
Et des lettres d'amour?
Ah, des lettres d'amour, non, c'est sur Internet, je l'ai fait.
Mais si les Français écrivent moins à la main qu'il y a 10 ans, paradoxe, un quart d'entre eux se disent attachés à l'écriture manuscrite.
Une note de quelqu'un qui a écrit à la main, qui a signé, ça fait chaud au cœur. Des fois, tu as la nostalgie, tu relis, tu te replonges dans le temps.
Une tendance qui s'accentue même chez les jeunes.
J'avais arrêté d'écrire pendant assez longtemps, là je reprends et je trouve ça assez agréable. Et c'est l'écriture quoi, c'est quand même le passage de la préhistoire à l'histoire, donc c'est quand même nécessaire de l'entretenir.
Un tiers de cette génération ultra numérisée se dit aujourd'hui attaché à l'écriture manuscrite.
Et on termine par le ciel, Valérie Darmon.
Sans aucune surprise, effectivement, comme les jours précédents, en matinée, la grisaille va se disloquer sur le nord-ouest. Le ciel va redevenir bleu très vite et s'installer sur toute la moitié nord pour la journée, au nord du Bordelais jusqu'en Alsace, grosso modo. Plus au sud, des nuages bas couvrent le Languedoc-Roussillon, le Midi toulousain, les plaines du sud-ouest. Ils se disloquent très, très lentement. Sur le reste de la moitié sud, ainsi que sur l'île de Beauté, vous connaîtrez des orages dans l'après-midi accompagnés de bonnes rafales de vent. Les cumuls d'ailleurs de pluie pourraient être conséquents sur le sud-est et la vallée du Rhône, sous les orages assez stationnaires. Les maximales vont afficher 16 à 19 le long des côtes de la Manche, 22 à 26 en général, avec des pointes jusqu'à 29 sur le centre.
Merci Valérie Darmon. Vous restez avec nous ici à Roland-Garros. Dans un instant, Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse, et notre invité, le mot d'ordre, ne surtout pas lâcher sur la réforme des retraites. À tout de suite.